Eh bien, bonjour à tous. On espère que vous avez passé une belle semaine. Merci à toute l'équipe de Louange qui était ici très tôt ce matin pour leur pratique et vraiment du beau travail. Nos cœurs sont élevés. Et ces paroles, les paroles des chants que l'on chante représentent tellement le soupir de notre cœur, que le Seigneur vienne vraiment de toucher nos cœurs comme ça, et c'est vraiment bon. Eh bien, il y avait un homme qui raconte que lorsqu'il était jeune, il était pas mal tanné que ses parents viennent toujours le voir pour le déranger alors qu'il était en train d'écouter une émission de radio, de télévision, son émission préférée. Vous vous en souvenez que lorsqu'il était jeune, tu étais en train d'écouter ton émission préférée. Tu étais en plein milieu de l'émission, pas à la fin, en plein milieu, puis maman, puis papa viennent te voir, puis ils disent « OK, c'est le temps d'aller faire dodo. » Vous vous en souvenez? Eh bien, là, il y a un monsieur qui raconte son témoignage, en quelque sorte, son histoire, puis il dit « Bon sang », il dit « Un jour, je me suis tanné que maman et papa viennent me voir me déranger en plein milieu de mon émission préférée. » Et là, j'ai dit à maman, j'ai dit « Sois voir. » Il a fait une menace. Il dit « Sois voir un jour, quand je vais rester chez nous, je ne me coucherai plus jamais. » Puis il dit « Tu vois ?» Il dit, j'étais là, puis j'ai eu comme une idée, un rêve qu'un jour j'appellerais ma mère à 4h30 dans la nuit, puis je resterais chez nous, j'aurais mon propre logement, puis je téléphonerais ma mère à 4h30 dans la nuit, puis je dirais, bonjour maman, oui, ça va très bien, je veux juste que tu saches, je suis pas allé me coucher. Oui, puis je veux que tu dises à papa, là, que j'ai laissé la lumière allumée. Toutes les lumières sont allumées chez nous à maison. Puis oui, la porte du frigidaire est grande ouverte. Je l'ai laissée ouverte. Puis j'ai joué toute la journée dans la rue. Puis sais-tu quoi? Nu-pied. Puis je me suis pas brossé les dents. Je n'ai pas pris mon bain. Puis sais-tu quoi? Je suis allé prendre le marteau aujourd'hui. Je ne l'ai pas serré à sa place. Puis sans avoir une bonne, je suis en train d'écouter la télévision. Puis j'étais à 4 pouces de l'écran. Vous souvenez-vous de ça? Levez la main ceux qui ont pensé un jour dire ça à maman, papa, papa. Juste 3 courageux, là. Ah ouais, d'accord. Mais le gars continue en racontant son histoire, puis il dit, savez-vous, maintenant j'ai 36 ans, puis je reste chez nous. Puis finalement, toutes ces règles que je trouvais ridicules, puis que je voulais dire à ma mère, ça n'a pas de bon sens, ces règles-là. Savez-vous, je regarde tout ça, toutes ces règles-là, puis aujourd'hui, je les fais toutes. J'en viole pas une. Je désobéis pas à une seule règle. Puis, ça me tente même pas. Ça me tente pas d'écouter la télévision à 4 pouces de l'écran. Savez-vous comment on appelle ça? La croissance. L'apôtre Paul le dit comme ceci dans une de ses lettres à 1 Corinthiens. Il dit, dans 1 Corinthiens 13, 11, voici ce qu'il dit. En passant, j'avais une belle image à vous montrer de ce bonhomme-là. Attends un peu, il faut que je vous montre ça. Là. Écoute, j'ai travaillé fort pour trouver cette image-là. Oh, il faut que je vous parle de ça. Oui, hey, juste vous annoncer que dans 3 semaines, non, je sais, ça n'a pas d'allure, hein. Je suis tout mêlé ce matin, faites-vous-en pas, je m'en vais en vacances. Soyez patients avec moi, c'est mon dernier dimanche là, avant mes vacances. Martinique, oui, dans 3 semaines, d'accord? Dans 3 semaines, on va avoir la visite. Ici, c'est pour ça qu'on est en train de se préparer. Vous avez vu les caméras. Faites un beau sourire, tout le monde. David, là. Prends tout le monde, là. On va avoir dans 3 semaines la visite de 75 touristes qui vont venir ici de la Martinique. Et ça va faire du monde, ça. Dans 3 semaines, le 11 août. Et ça donne justement que c'est notre frère François Picard qui va venir prêcher ce matin-là pour me remplacer. Donc, ça va être une matinée, là, on va avoir la belle visite. Donc, on se prépare, on va avoir une belle salle à côté le foyer. On les enverra pas toutes là, non, on va essayer de faire nos gentils. Puis, oui, il va y avoir bien du monde. On est en train de travailler pour avoir plus d'espace. Vous avez remarqué qu'on ajoute. On a 400 places ici. Vous arrivez, bien, puis il manque d'espace, on est tout en train de faire ça de l'autre côté, puis qu'il y a assez d'espace pour ce matin-là. Et en plus, on se prépare parce que l'automne va s'en venir. Ben oui, ça arrive, chaque année, imaginez, l'été va finir. Puis là, à mesure qu'on va approcher le mois de septembre, vous comprenez que ça va s'ajouter, qu'il va y avoir de plus en plus de monde. Et c'est ça. Je pense que les gens vont arriver de bonne heure le 11 août, hein? Je pense pas qu'il y aura bien du monde en retard le 11 août. En tout cas, si vous avez un retard, vous allez être l'autre bord.
Je vous le garantis.
Oui, écoute, je voulais vous montrer cette belle photo-là. Ça, c'est le gars, finalement, qui rêvait quand il était jeune. Là, quand je vous racontais l'histoire tantôt, si vous en souvenez. En tout cas, c'était pour dire qu'un jour, moi, je ne suivrais aucune règle et tout ça. Je mettrais tout ça en envers. Tout ça. Moi, je travaillais tellement fort pour trouver cette photo-là. Je voulais absolument vous la montrer, même si mon histoire est finie. Fait qu'on va continuer. Ouais, c'est ça. Alors, 1 Corinthiens 13, verset 11. L'apôtre Paul le dit comme ceci. Il dit, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai mis de côté l'enfant. » N'est-ce pas? Et ça, c'est la croissance. C'est normal. C'est tout à fait normal. Normal que quand on est jeune, on fait des bêtises. C'est tout à fait normal. Il y a certaines bêtises que tu fais quand tu étais jeune, tu ne veux pas les refaire quand tu es plus vieux. Ce ne serait pas normal. Alors, l'apôtre Paul parle de la croissance du chrétien. Et c'est ce que nous sommes en train de regarder depuis quelques semaines. On est en train de faire une série. D'ailleurs, on termine ce matin. Détox pour l'âme. On est en train de regarder cette série sur cette croissance, la croissance du chrétien. Et on est en train de finir cette série-là. Et puis, on est en train de constater ensemble qu'à mesure qu'on va grandir dans notre relation avec Dieu, à mesure qu'on grandit dans notre relation, on va les laisser de plus en plus des choses qui ne sont pas bien. On les délaisse et on ne veut même plus les faire. Et parce qu'on veut plaire à Dieu, on veut être passionné pour Dieu. Et à mesure qu'on grandit, c'est ce qu'on découvre. On découvre finalement qu'il y a des choses qui nous intéressaient avant, qui vont moins nous intéresser en vieillissant. Le psaume 37,4 dit ceci, un beau, un magnifique verset, je pense que c'est un des versets, je ne sais pas si c'est là encore aujourd'hui, mais ça l'était à l'époque, un verset favori de mon épouse. C'était le verset favori de mon épouse. D'ailleurs, je me rappelle, c'est le premier verset de la Bible que j'ai vu. Lorsque je suis venu ici, il y a bien des années, pour la première fois, je travaillais comme représentant sur la route, puis j'avais des clients ici dans l'Outaouais. Et puis, bon, on sent que je trouvais ça tellement loin, l'Outaouais. Hey, c'était loin, là. Non, mais comme, hey, je disais à ma copine qui était lise dans le temps, hey, je m'en vais dans l'Outaouais. Et là, c'était loin, là. Et là, je reste ici, imaginez. Là, je trouve les autres loin. Mais là, quand je m'en venais dans la région, ici, dans le coin, c'était un de mes clients, Claude Lassalle. Moi, j'étais dans le couvre-plancher, fait qu'il y avait un magasin qui s'appelait Tapis Lasso, je pense. Je pense que ça s'appelait comme ça, Tapis Lasso. Puis Claude Lassalle. Puis juste à côté, il y avait quelqu'un qui l'avait emmené au Seigneur, qui s'appelait Carole Mongeon. Puis il y avait une boutique, un genre de. Ah, dans le temps, je pense que c'était de la charcuterie, je ne suis pas sûr. Puis il y avait un verset écrit en gros, justement, dans le magasin. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Avec bon sens, c'est tellement un beau verset. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et tu t'aperçois finalement qu'à mesure que tu grandis dans le Seigneur, puis à mesure que tu fais de Dieu ton délice, tes délices, tu t'aperçois finalement que tu te passionnes de plus en plus à ce qui passionne le Seigneur. Et tranquillement, tu délaisses les choses. Alors, c'est vraiment différent. Hein? Ce n'est pas une religion. C'est pour ça qu'on dit tout le temps aux gens, on n'a pas de religion, nous autres. On a une relation avec Dieu. Et c'est pour ça. Une religion, c'est que c'est lourd. Il y a un joug. Il y a « Ah, tu dois faire, puis tu ne dois pas faire. » Puis il y a une liste de choses à faire, puis pas faire. Mais tu t'aperçois qu'avec le Seigneur, à mesure que tu grandis dans ta relation avec Dieu, c'est pas ça du tout. C'est vraiment une relation avec Dieu. Et tu délaisses tranquillement et tu te passionnes de plus en plus avec Dieu, à Dieu, c'est ça que tu veux, puis tu vas délaisser des choses qui t'intéressaient plus à l'époque, mais de moins en moins à mesure que tu grandis. Alors, on regarde un passage depuis quelques semaines dans 1 Pierre, on est là-dedans, 1 Pierre, où on voit les enfants de Dieu sont appelés à grandir. Et on avait vu que la vie chrétienne se développe en stades, des stades de développement. D'ailleurs, on a regardé un passage dans Jean, l'épître de Jean, le fait, qui parle de trois stades de développement. Il parle de l'enfance à l'adolescence, jeune gens, et de l'adolescence spirituelle à l'adulte, l'âge adulte spirituel. On regarde que Jean lui-même, l'apôtre Jean, parle de ces stades de développement lorsqu'on vient au Seigneur, comparable à la vie. Alors, pour grandir, le message derrière tout ça, dans le fond, c'est que grandir, il faut être intentionnel pour grandir. Il faut être intentionnel. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la vision de l'Église ici au Sentier, nous avons une vision d'accompagner chaque personne, et on appelle ça le parcours du disciple. Et on vous encourage à entrer dans cette vision-là. D'ailleurs, lorsqu'on veut devenir membre ici, vous allez suivre un cours, et à l'intérieur du cours, vous allez voir cette vision de l'Église. On veut aider et accompagner chaque personne dans ce parcours. On a divisé ça pour faire des disciples matures. On l'a divisé en 4 stades. Donc, il faut être intentionnel. Et c'est ce que nous sommes en train de regarder dans Pierre. Donc, moi, j'aimerais vous encourager à tourner avec moi et venir me rejoindre dans 1 Pierre, chapitre 1. Et ce passage que nous sommes en train de lire depuis quelques semaines, on va le reprendre ce matin. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Alors, 1 Pierre 1, 22, qui dit ceci. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Pierre dit, comme des nouveaux-nés, grandissez. Grandissez dans votre salut. La vie chrétienne n'est donc pas statique. C'est une aventure, c'est un voyage, c'est un pèlerinage. On veut grandir. Grandissez, dit Pierre. Mais il faut être intentionnel pour grandir. Alors, pourquoi grandir comme chrétien? Eh bien, on l'a déjà vu depuis quelques semaines, qu'on veut grandir parce que dans le Seigneur, parce que quand on vient au Seigneur Jésus-Christ, on est comme des enfants spirituels. On est à ce stade-là, on vient de se convertir, on a un tas de questions, tout est nouveau. Un nouveau système de valeurs, tout est chambardé. Je me souviens de ma femme qui s'enlignait pour avoir une carrière dans la chanson, après plusieurs années de cours. Elle, sa vie, c'était de s'enligner dans une carrière comme chanteuse professionnelle. Elle s'enlignait pour ça, elle a pris des bons professeurs, les mêmes professeurs que Ginette Renault, tout ça. Elle s'enlignait pour ça, elle commençait à faire la radio, faire la télévision et tout ça. Les cabarets, elle avait des contrats, et tranquillement, elle faisait son chemin à travers les médias. Et lorsqu'elle vit au Seigneur, ça a tellement chambardé ses valeurs et tout ça, que là, je me rappelle un soir, on est allé dans un cabaret, dans un club, on venait de se convertir à Jésus-Christ, puis on rentre dans un club, puis il y avait une chanteuse qui était là, bien connue au Québec, une des grandes vedettes au Québec, tout ça. Puis on était assis, tous les deux, puis c'est comme s'il y a eu comme un choc, là. On était là, puis c'est comme, on s'est dit, bon, ami, qu'est-ce qu'on fait ici? C'est comme, il y a quelque chose qui s'est passé, alors qu'avant, on était comme dans un bain de mousse, dans ces endroits-là. On était vraiment là, si vous pouvez même imaginer, dans les années disco, voir Normand, qui n'a aucun rythme, essayer de danser. Ma femme, elle disait, ma femme qui était chanteuse, il y avait bien du rythme. Puis, tu sais, il y avait toute cette vie-là de disco tous les soirs, puis ça, pour ceux qui sont assez trop vieux, non, trop jeunes, si vous êtes trop jeunes, disco, ça existait dans le temps, c'était comme une, tu sais, il y avait comme une boule avec les miroirs. Ah, en tout cas, je veux pas aller là-dedans, là. Et puis, on était dans tout là-dedans, il y a un chambardement quand tu viens au Seigneur, là. Ça, mon ami, il y a toutes les valeurs qui sont là en train de changer, puis tout ça, tu as un tas de questions. Et la Bible, et c'est tout à fait normal, et c'est sain, ça. C'est que tu chambardes toutes tes valeurs, ton système de valeurs change. Il y a un paquet de questions. Comment on est célibataire, chrétien? Je viens d'accepter le Seigneur, je suis un célibataire. Comment je vis ça? Le célibat, c'est tout à fait, mon ami, tu sais, c'est tellement différent du monde. Hein? Le monde, tu as une relation, puis tu t'aimes. Alors vas-y, tu as des relations sexuelles et tout ça. Il n'y a pas de problème, voyons donc. Puis, là, tu deviens chrétien, non, je me sens, c'est pas ça. Puis tu grandis, tu découvres, ah non, écoute, je vais me garder pur jusqu'au mariage. Puis les valeurs changent, ça marche contre-courant. Et le mariage, combien de foyers j'ai vu où ça se met l'enfer dans la maison. Et lorsque les deux sont venus au Seigneur, il y a eu un chambardement. Puis ça, j'ai vu des couples, moi, qui étaient séparés depuis 12 ans, venir au Seigneur. Je pense que je vous ai déjà partagé ça. 12 ans séparés, quelques enfants d'un bord, d'autres enfants de l'autre côté, sont revenus ensemble, réconciliés après 11 ans de séparation lorsqu'ils sont venus au Seigneur. Amen. Incroyable ce que Dieu fait. Alors là, tu as un chambardement lorsque tu viens au Seigneur, puis c'est comparé comme à un enfant spirituel, un bébé spirituel. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Tu peux être un savant, brillant, tu peux avoir du succès. Non, c'est qu'on passe tout par... De la même manière qu'on passe tout par l'enfance, spirituellement, c'est pareil. Sauf Adam, évidemment, lui, quand il est né, il avait déjà l'air de Brad Pitt. Mais à part de lui, tous nous autres, on passe par l'enfance, et ça, c'est normal. Comme des enfants spirituels, on va passer par des moments de changement, bien des changements, changement de valeur, changement de les émotions, tout ça. Quand tu viens au Seigneur aussi, pas tout le monde, ça dépend des personnalités de chacun, mais tu vas avoir des émotions aussi, tu vas avoir toutes sortes d'émotions, puis tu vas, pour la plupart, en tout cas, d'entre nous, on va passer à travers ces chambardements-là, et puis tous ces questionnements-là. Et ce que tu veux, et ce qu'on va voir, c'est qu'à mesure que tu vieillis dans le Seigneur, que tu prends de la maturité, de la maturation, tu veux de moins en moins te fier à tes émotions et de plus en plus te fier aux Écritures. Tu développes cette habitude-là à ne pas te fier seulement à tes émotions, parce que tes émotions, ça nous dicte souvent le mauvais endroit. Alors, à mesure qu'on va vieillir et qu'on étudie la parole de Dieu, on va vouloir s'enraciner dans la parole de Dieu. Et on va vouloir de plus en plus chercher à faire la volonté de Dieu. Et même quand les émotions nous disent de faire une chose, on ne laissera pas nos émotions nous contrôler. C'est ça qu'on veut en arriver à cette place-là, de ne pas être dicté, de ne pas être contrôlé par nos émotions, soit par la colère. La colère nous fait faire bien des choses, il nous fait dire des choses des fois. Et en mesure qu'on grandit, on veut se laisser moins et moins diriger, dicté par nos émotions. On veut chercher à se contrôler nos paroles, nos agissements. On veut démontrer l'amour du Seigneur, comme ce passage le démontre, avec un amour sincère, profond, ardent, vrai. À mesure que l'on grandit, puis qu'on prend la maturité, et qu'on connaît la parole de Dieu, on commence à voir aussi les événements autour de nous, même les épreuves et tout ce qui se passe autour de nous, même dans le monde, avec un œil plus critique. On va développer l'habitude à plutôt dire qu'est-ce que la parole de Dieu dit à cet égard, à ce sujet-là. On va retourner à la parole de Dieu. Et ça, c'est un signe de maturité, de retourner à la parole de Dieu pour se fier sur la parole qui est révélée dans les Écritures pour savoir comment amener ma vie. On va pouvoir rentrer dans n'importe quel magasin, prendre n'importe quel livre qui se vend à Archambault, au Renaud-Bray, tout ça, puis avoir un œil critique à tout ce qui se dit, tout ce qui se dit à la télévision, à la radio, même nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Et on va se laisser de moins en moins influencer par ça, par les mouvements, les courants, et même si la foule dit « fait ça », on se laisse de moins en moins influencer par ça parce qu'on va vouloir, on va avoir développé une habitude de retourner à la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que Dieu dit à travers les Écritures. Je comprends, la foule dit, voici comment on mène une vie de célibataire. Bien, les Écritures, ça dit quoi, dans le fond? Dans 1 Corinthiens 7 et tout ça, je vais regarder ce que ça dit pour le mariage aussi. Comment se conduire comme époux, comme épouse, les enfants, l'éducation des enfants. Qu'est-ce que les Écritures disent? Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes choses dans le monde, dans le séculier, tout ça. Absolument, il y a des bons conseils. Il y a des gens qui passent leur vie à prendre des bons principes de communication et tout ça. Et on veut tirer toutes les bonnes choses, absolument. L'apôtre Paul dit, je prends des bonnes choses, je mets de côté les moins bonnes. Mais tu sais c'est quoi les moins bonnes? Tu as un œil critique maintenant. Tu peux te développer cette habileté-là à travers les Écritures. Tu es assez à l'aise dans les Écritures pour voir, tu as vu ces choses-là au fil des ans. Tu peux faire la part des choses. Alors, il est important de savoir où nous en sommes sur le plan spirituel. Où est-ce que tu es rendu afin de pouvoir grandir? Et c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui. Sans ça, on va rester au même point. Si tu fais juste te balader à travers la vie chrétienne sans être intentionnel pour ta croissance, c'est que tu n'avances pas, tu restes au même stade. On veut être intentionnel à vouloir grandir. Et vous étiez nombreux à prendre cette décision-là la semaine dernière, à vouloir, moi je veux grandir, je ne veux pas rester comme ça. Et ça, c'est tout à fait glorieux. Et Dieu va bénir ça. Et on veut voir ensemble comment grandir. Et c'est ça qu'on veut voir ce matin. Alors, première question qu'on doit se poser, c'est grandir à quoi aujourd'hui? Je veux grandir, je veux bien beau, je prends cette décision-là, je veux grandir, mais dans quel but au juste? Quelle est la cible? On veut devenir quoi au bout du compte? Pierre va dire dans 1 Pierre 2,2, il dit, « Vous grandirez pour le salut. » OK, grandir pour le salut, ça veut dire quoi ça? Mais dans le même passage, Pierre va dire, « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté, de toute ruse, de toute hypocrisie, d'envie, de toute médisance. » OK, là, on est un peu plus précis, mais encore, c'est abstrait. C'est quoi le but ultime au bout du compte? Et pour le voir, il faut tourner dans un autre passage que dans Colossiens chapitre 1. Et ça dit ceci, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme, quoi? Devenu parfait, complet en Jésus-Christ. » Voyez-vous, Paul explique son travail, son ministère, sa mission. Puis il dit, c'est quoi? C'est d'instruire les membres de l'Église à grandir jusqu'à ce qu'ils deviennent parfaits en Jésus-Christ. C'est ça la cible. Il redit essentiellement la même chose dans un autre passage, dans Éphésiens. C'est lui aussi qui a écrit cette lettre-là, dans Éphésiens chapitre 4. Et voici ce qu'il dit. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Vous voyez, c'est ça le but. Paul nous dit que l'objectif de chacun de nous est de grandir jusqu'à ce qu'on devienne comme Jésus. Et ça, c'est très concret. En d'autres mots, tu regardes à Jésus. Jésus est notre modèle. C'est lui la perfection. Quand on regarde comment Jésus agissait, comment il parlait, comment il enseignait, on est de plus en plus surpris lorsqu'on l'étudie, on le voit, on le regarde aller. On voit chez Jésus des qualités. C'est la perfection même. Vous prenez n'importe quelle qualité, emmenez-la à la perfection et vous allez la voir chez Jésus. Un équilibre parfait. Par exemple, on voit la tendresse à son meilleur quand on voit Jésus-Christ. Mais en même temps, on ne voit aucune trace de faiblesse. On voit la force sans dureté. Il est plein d'humilité, mais en même temps plein d'assurance. Une assurance inébranlable, parfaitement humble, mais plein d'assurance aussi. Vous avez une sainteté parfaite, des convictions inflexibles, immuables, mais il reste accessible à tous. C'est ça qui est beau. Il y en a des fois qui sont déséquilibrés là-dessus. On est tous déséquilibrés là-dessus. On va être tous un, peut-être trop de l'autre, mais Jésus arrivait à cette perfection-là. Il avait le pouvoir, l'autorité absolue, mais il restait sensible. Il était passionné sans faire de préjudice. Il était parfaitement intègre, mais sans rigidité. Il ne s'est jamais engagé dans une action irréfléchie, n'a jamais dit un mauvais mot, n'a jamais fait d'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand on regarde Jésus-Christ? Tu vois la gloire morale. Tu vois la moralité dans toute sa splendeur. C'est comme regarder un soleil. Éblouissant. La beauté absolue. Quand on regarde à Jésus, on voit Dieu, c'est la grandeur divine à travers la nature humaine. Et ça, c'est l'ambition qu'on a. C'est notre rêve. C'est ce qu'on veut. On veut devenir de plus en plus selon la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ce qu'on veut. On veut atteindre ça. On ne l'atteindra jamais ici, mais on la vise, on la recherche, on la poursuit avec l'aide du Seigneur. Ça, c'est notre cible. Rien de moins. C'est ce qu'on veut. Maintenant, comment arriver là? Comment avoir son cœur purifié en obéissant à la vérité? Bien, ça commence avec la nouvelle naissance. On l'a déjà dit depuis quelques semaines dans notre série que c'est absolument impossible d'arriver là sans passer à travers l'expérience de la nouvelle naissance. Si tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu ne pourras jamais, jamais grandir dans le Seigneur. D'ailleurs, même les recommandations, les exhortations qu'on a dans les Écritures vont même te sembler ridicules. Tu ne comprendras pas. Tu vas dire, voyons, pourquoi j'essaierais ça? Ça te prend la nouvelle naissance parce que ça te prend l'Esprit Saint que tu reçois à la nouvelle naissance. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'ADN spirituel de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui vient dans ta vie, qui va te transformer de plus en plus. Sinon, ce sera absolument impossible de grandir dans le Seigneur. Chaque fois que la Bible dit « Aimez-vous les uns les autres, soyez honnêtes les uns envers les autres, vivez dans la sainteté », la Bible prend pour acquise qu'elle s'adresse à des chrétiens nés de nouveau. Les exhortations qu'on a dans le Nouveau Testament s'adressent à des chrétiens. Parce que la Bible sait qu'il est absolument impossible de les réaliser, de réaliser les demandes de la Bible sans l'aide du Saint-Esprit. Ça va être écrasant, décourageant, Absolument impossible. Elles sont trop difficiles à accomplir sans l'aide de l'Esprit-Saint. Ça ne marchera pas. Et on ne comprendra même pas pourquoi. On va commencer à raisonner, puis tu dis, ah, franchement, là, ça n'a pas de bon sens, je ne comprends pas. Et on va vouloir s'obstiner à tout bout de champ. Déjà, comme enfant de Dieu, on s'obstine. Imaginez quand tu n'as pas la nouvelle naissance. Tu as besoin d'un nouveau cœur, de cette nouvelle ADN spirituelle. Alors, pourquoi on a besoin de grandir? On a besoin de grandir parce que quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu es comme un enfant spirituel. Tu as besoin de grandir. Et on est appelé à grandir vers quoi? Vers la stature parfaite de Christ. Alors, comment grandir? Eh bien, Pierre le dit, il dit, purifiez-vous par l'obéissance de la vérité. L'obéissance. Le mot obéissance, ici, c'est majeur. C'est comme ça qu'on grandit. Ça, c'est notre part, d'obéir, l'obéissance. Alors, comment grandir? Il s'agit de regarder Dieu et lui dire, et prendre cette habitude-là de lui dire de plus en plus, non pas ma volonté. Exactement ce que Jésus a fait dans le jardin de Gethsémané, vous vous en souvenez? Non pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Pas ma volonté. Je ne veux pas faire ma volonté, mais je veux faire la tienne, Seigneur. Sinon, on va toujours rester des enfants spirituels. Si on ne se soumet pas à la parole de Dieu. Le but, donc, que chaque partie de ma vie, chaque sphère de ma vie soit placée sous le contrôle de Dieu. Et c'est ça la croissance. La croissance, c'est de regarder chaque sphère de ma vie et que chaque sphère de ma vie, de plus en plus, je travaille avec l'aide du Saint-Esprit qui m'accompagne, qui me donne la puissance de le faire. Moi, ma part, c'est l'obéissance, c'est de plus en plus de soumettre le contrôle de chaque sphère de ma vie entre les mains de Dieu. C'est lui qui est ça. On veut placer les sphères de notre vie sous le contrôle du Seigneur. Alors, quels sont les domaines où nous avons besoin de grandir et placer le contrôle sous le contrôle de Dieu? Eh bien, Jim Putman a écrit un livre avec deux de ses collègues qui s'intitule « Disciple Shift ». Selon ses auteurs, qui s'inspirent de la lettre aux Éphésiens, disent qu'il y a vraiment quatre domaines de croissance pour le chrétien. Quatre domaines. J'ai besoin de grandir dans ma relation avec Dieu de plus en plus. J'ai besoin de grandir dans ma relation avec la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église. J'ai besoin de grandir dans ma vie de famille aussi, comme mari, épouse, enfant, dans l'éducation de mes enfants. J'ai besoin de grandir là-dessus et soumettre cette sphère-là de ma vie de plus en plus sous le contrôle de Dieu. Et j'ai besoin de grandir dans ma relation avec le monde aussi. D'abord, nous avons besoin de comprendre la volonté de Dieu. Il faut la comprendre d'abord. Pour chacun de ces domaines. Quelle est la volonté de Dieu pour chacun de ces domaines-là de ma vie? Et j'ai besoin, après ça, de me soumettre à l'autorité de Dieu afin de grandir vers la stature parfaite de Christ. Putman et ses collègues ont fait un graphique que vous avez entre vos mains. On vous l'a remis lorsque vous avez, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'ouvrir le bulletin que vous avez reçu en entrant à l'église, mais à l'intérieur du bulletin, vous devriez avoir un carton comme ceci. D'accord? Vous avez ce carton-là, vous avez reçu, c'est dans le bulletin, deux côtés, recto verso. Alors, d'un côté, vous avez la roue, mais on va revenir à la roue tantôt, tourner plutôt ce côté-ci. Et ça, c'est les quatre sphères de la vie. D'accord? Alors, Putman et ses collègues ont fait un graphique et qui nous rappelle qui s'appelle les quatre sphères de la vie. On l'a ici sur l'écran, vous pouvez le voir. Vous allez remarquer une chose en haut de l'image, juste en haut ici, là, d'accord? Voyez-vous ici, deux bonhommes? Un s'appelle disciple, l'autre c'est le formateur de disciples. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a deux personnes. Ça veut dire que vous avez besoin d'aide. Ça veut dire que j'ai besoin d'aide. Nous avons besoin d'aide, et il y a des gens dans l'Assemblée qui ont besoin d'aide. Nous avons tous besoin d'aide. Le premier s'appelle le formateur de disciples et le deuxième s'appelle le disciple. Qui est formateur de disciples? Bien, voici l'idée. L'idée est de prendre le carton, et moi, j'aimerais vous encourager à tous faire ça. Vous pouvez même demander à votre épouse, votre mari, ça va vous donner un temps vraiment riche. Ou, si vous êtes célibataire, trouvez-vous un ami en qui vous avez confiance. Et vous allez les rencontrer, vous allez prendre un café, vous avez vos deux cartons, et vous commencez à jaser, vous commencez à vous poser des questions pour savoir comment ça va, parler où est-ce que vous êtes rendu dans ces domaines-là. Il y a quatre domaines de vie que nous voulons grandir. Alors ensemble, on veut s'encourager, on veut s'édifier. Quels sont les domaines que j'ai besoin de travailler? J'ai des forces, et il y a peut-être des domaines où j'ai besoin de travailler encore. Alors, on va s'encourager mutuellement. Je vais prier pour toi, tu pries pour moi. On va s'encourager mutuellement. Il va y avoir une mutualité ici, dans un climat de confiance, d'édification. On veut s'encourager à grandir. Et on va s'encourager les uns les autres. J'étais fasciné l'autre jour, j'ai entendu une entrevue à la télévision par René Angelil. Vous savez, René Angelil, le mari de Céline Dion, bien connu, vous, on connaît tous. Puis, il accordait une entrevue à la télévision, puis je trouvais vraiment intéressant. Il dit, quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à faire de l'argent et tout ça. Il était dans la carrière de lui-même, il était chanteur avant. Et il a vieilli, bon, etc. Il s'est marié avec Céline, tout ça. Puis la carrière poussait, commençait à faire de l'argent. Il commençait à jouer, il commençait au jeu, là, faire du gambling. Il allait dans un casino et tout ça. Il avait de l'argent, il commençait à dépenser pas mal. Et là, il s'est aperçu qu'il était pas mal accroché au jeu. Là. Et il a vu qu'il commençait à avoir un problème, là, vraiment. Et c'est vraiment intéressant parce qu'à un moment donné, il a voulu embaucher un comptable pour s'occuper de tout l'empire. Écoutez, Céline Dion fait à peu près quoi? 70 millions par année, là, c'est des gros sous. C'est tout un empire, beaucoup d'argent à gérer, tout ça. Donc, il voulait embaucher un comptable et il est allé chercher un bon comptable, là, le top, et tout ça. Il avait l'argent pour le payer, puis tout ça, let's go. Et le comptable, il a donné une condition. Imagine-toi, non. Il a donné une condition. Non, mais c'est quand même, il me semble, si tu veux sauter sur l'occasion d'aller travailler pour René Angelil, tu vas faire des... Mon ami, tu vas faire de l'argent, là. T'es dans la bonne place, en tout cas, pour faire beaucoup d'argent. Là. Non, le comptable a une condition. Il a dit, j'accepte à une condition, que tu n'as plus le droit de signer les chèques tout seul. Toujours deux signataires. Aïe, aïe. Et là, René Angelil, il dit, j'avais une décision à prendre, là, parce que là, j'étais en train de perdre du contrôle. Vous savez comment on aime ça, contrôler, là? Et là, tout d'un coup, moi, là, c'est un empire. Là. Lui, il faisait ce qu'il voulait. Là. Tout d'un coup, quelqu'un dit, je vais aller travailler avec toi, à une condition, on va être deux signataires. Il dit, René Angelil a dit, à ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai dit, c'est correct. Et regardez bien ce qu'il dit après des années. Il dit, ça m'a sauvé. C'est fort, hein? Hey, ça prenait de l'humilité, là. Pour accepter ça. Là. Puis il dit, ça m'a sauvé. Et celui qui faisait l'entrevue, il a demandé, comment vous faites? Parce qu'il me semble, vous avez l'air tellement équilibré, vous deux, ça, une famille, à travers tout le jet set, les milliardaires, vous êtes là-dedans, là, c'est un empire. Et comment vous faites pour rester tellement simple, humble, vous, tu sais, comme là, on vient d'entendre là, à Vancouver, là, cet artiste-là, là, qui vient de mourir, là, à l'âge de quoi, 30-quelques années, là, il vient de mourir, la drogue et tout ça, c'est facile de tomber là-dedans. T'sais. Alors, comment vous faites? Et voici ce qu'il a dit. Il a dit, Céline est bien entourée. Elle n'est pas entourée de Yes Man, parce que c'est très facile quand t'es vedette, puis tu joues dans les millions, d'être plein de gens qui disent, oui, puis ils disent tout ce que tu vas entendre. Pas Céline, ni moi, on s'est bien entouré, puis on écoute les critiques. On les entend, on les écoute, puis Céline, quand quel gars, il dit, tu chantes mal cette chanson-là, faut que tu recommences, tu as mal chanté, c'est tout croche, elle dit, c'est correct, on recommence. Hey, c'est dur, ça, pour l'humilité, hein? Vous savez quoi? Aujourd'hui, son succès, en partie, ça a été contribué parce qu'elle était bien entourée. J'ai trouvé ça vraiment excellent, vraiment bien. Et vous savez, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on a tellement souvent dans les Écritures, hey, ça revient souvent, cette expression-là, les uns les autres. Avez-vous déjà vu ça dans la Bible? Les uns les autres. Bien des gens pensent, ils mènent leur vie chrétienne de façon isolée. Tu ne sais rien, ils ne veulent pas que tu saches rien. Si tout est secret, laisse-moi te dire, c'est pas comme ça que tu vas t'aider. Tu t'aides pas à grandir. Tu t'aides pas. René Angelil a eu cette humilité-là, Céline aussi, de reconnaître qu'on avait besoin d'aide. On va bien s'entourer. Et c'est comme ça dans la vie chrétienne aussi. Si tu veux grandir, si tu veux avoir du succès dans ta croissance de vie chrétienne, il faut bien s'entourer. C'est correct. Oui, puis des fois, il y a des gens, des gens qui vont te dire des choses qui ne font pas ton affaire, mais c'est fait avec un esprit d'entraide et un esprit de douceur. C'est ça qu'il dit dans Galates. Si tu vois ton frère commettre une faute, toi qui es spirituel, reprends-le avec un esprit de douceur. Vance Havner a dit ceci, « Comme des flocons de neige, les chrétiens sont fragiles. » Mais ils se collent les uns les autres et peuvent bloquer la circulation. C'est vrai, ça? On est fragiles comme des flocons de neige, mais bon, on sent quand on est ensemble, là, ça brasse. On peut bloquer la circulation. Alors, nous avons besoin les uns des autres. Alors, si tu prends ce carton-là, le carton qu'on vous a donné ce matin, le graphique te présente quatre sphères de vie, puis tu prends ça avec une autre personne. Et il faut se poser des questions importantes. On se pose des bonnes questions, honnêtes, vraies. On a vu la semaine dernière, hein, « Aimez-vous d'un amour sincère? » Puis on a dit que dans le grec, là, c'est vraiment comme vrai, être vrai, se dire les vraies choses. C'est ça l'amour. Avec un ton encourageant, évidemment. Mais on veut avoir cette humilité-là. On veut donner le droit aux autres de venir, puis de s'investir dans ma vie, puis de me dire les vraies affaires. Tu donnes ce droit-là. Alors, et ça devient un bon sujet de prière, ces quatre sphères. Donc, on a besoin, premièrement, alors si vous regardez le carton, ou bien même sur l'écran, vous allez voir, premièrement, et c'est l'essentiel, c'est au centre. On veut, et tout dépend de ça, évidemment, tout commence là, et ça continue comme ça. Au centre, j'ai besoin de grandir dans ma relation avec Dieu. Alors, voici trois questions en regard à ma relation avec Dieu qui vont peut-être vous aider. Putman le divise en termes de tête, cœur et main. Alors, la tête, c'est la connaissance, le cœur, c'est le caractère, et les mains, c'est la pratique. Donc, au niveau de la tête, est-ce que, et voici les questions qu'on veut se poser ensemble lorsqu'on se rend compte avec ce carton-là, est-ce que je comprends, alors, cette question, est-ce que je comprends, donc c'est intellectuel, on veut comprendre, parce qu'il faut connaître, hein, comme on le disait au début du message, on veut connaître la volonté de Dieu, on veut connaître Dieu, et après ça, tranquillement, l'affaire. Donc, est-ce que je comprends ce que ça signifie que de grandir en Dieu, avec Dieu? Est-ce que je prends du temps avec Jésus-Christ afin d'avoir la force et la direction que j'ai besoin pour devenir ce que je suis censé devenir? Au niveau du cœur, est-ce que je confesse mes péchés au Seigneur? Une question qu'on veut ensemble se poser et confesser ses fautes. Qu'en est-il de mes motifs? Pourquoi je fais ce que je fais? Est-ce que je fais ce que je dois faire pour des bonnes raisons? Mon caractère est-il en train de changer? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai un meilleur caractère que j'avais il y a un an passé? Hein? L'an passé, la pareille date, où est-ce que j'étais au niveau de mon caractère? Est-ce qu'il y a un aspect de mon caractère qui s'est amélioré depuis un an? Est-ce que mon amour pour Dieu est en train de grandir? Bonne question. Les mains, troisième aspect. Suis-je prêt à suivre Jésus là où il me conduit? Il y a peut-être des domaines, là. Est-ce que je suis prêt à le suivre? Il me montre des choses, une direction, il me donne sa direction claire pour une affaire. Est-ce que je suis prêt à suivre ça? Là? Ça, c'est les mains. Est-ce que je mets en pratique ce que j'apprends? Et est-ce que j'ai le souci, la compassion des âmes, de pouvoir partager l'Évangile aux autres? Alors, premier aspect, ma relation. Je veux grandir dans ma relation avec Dieu. Deuxième aspect, je veux grandir dans ma relation avec la famille de Dieu, c'est-à-dire l'Église. Alors, la tête, est-ce que je comprends ce que la Bible enseigne sur l'Église? L'importance des relations avec les autres chrétiens? Est-ce que c'est assez important? Je le vois, je le comprends, au point de m'inciter, m'inspirer à peut-être m'ajouter un groupe maison pour justement encore favoriser ma croissance. Le cœur, est-ce que je grandis dans mon amour pour les autres chrétiens? Est-ce que dans mon cœur, là, est-ce que mon amour grandit pour les frères et sœurs? Ou est-ce que je cherche à fuir l'Église? Si je cherche à fuir l'Église, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, là. C'est comme une mauvaise note, hein, une fausse note pour un professionnel, un artiste. C'est déjà là, il y a quelque chose, là, et je veux grandir à ce niveau-là. Je veux grandir. Qu'en est-il des mains avec l'Église? Est-ce que mes relations avec les autres chrétiens sont saines? Avec chaque chrétien, est-ce que ces relations-là sont saines? Est-ce que j'ai des conflits non réglés avec certaines personnes de l'Église? Est-ce que je me sers de mes dons, mes talents que Dieu m'a donnés pour les mettre au service des autres? Hein? 1 Pierre 4:10 qui dit, mettez au service des autres les dons que vous avez reçus. Alors ça, c'est l'aspect de la croissance au niveau de ma relation avec l'Église, avec les frères et sœurs dans l'Église. Il y a une troisième sphère de croissance, c'est ma vie de famille. Et toutes ces sphères-là s'inspirent de la lettre aux Éphésiens. Et Éphésiens 5, 6 parle des relations, le mari, l'épouse, avec les enfants. Alors, Paul décrit c'est quoi, que ça a l'air, ça, d'un foyer chrétien. Il parle des responsabilités de chacun, et je veux me poser la question où j'en suis à ce niveau-là. Ce domaine est très important, parce que c'est tout à fait possible de comprendre l'Évangile sans que ça l'influence, sans que l'Évangile influence mon foyer. Il y a pas une, c'est pas divisé, cette affaire-là. L'Évangile doit apparaître dans tes relations avec ta femme et ton mari, avec les enfants. Et le Saint-Esprit sait que le meilleur endroit pour grandir comme disciple, c'est à la maison. Et les questions qu'on a se trouvent dans Éphésiens chapitre 5, chapitre 6. Tu lis juste ces deux chapitres-là, tu vas avoir un tas de questions qui vont découler de ça. Comment être un meilleur serviteur avec mon conjoint? Comment être un meilleur serviteur? Comment je peux aider? Le ménage, les tâches quotidiennes, l'encouragement, etc. Comment puis-je aider mon conjoint à grandir dans le Seigneur aussi? Est-ce que je me soucie de la croissance spirituelle de mon conjoint? Comment connecter encore mieux avec mes enfants? Est-ce que j'ai une bonne relation avec mes enfants? Et si je suis un célibataire, comment être un bon serviteur envers les autres célibataires? Comment les encourager à grandir dans leur relation avec Dieu? Comment bien gérer mon temps? Maintenant, je suis célibataire et peut-être je suis divorcé, tu te retrouves dans un nouveau genre de vie. Tu as plus de temps à toi. Comment gérer ça, tout ce temps-là, de ce temps libre-là? Comment je peux aider les autres? 4, j'ai besoin de grandir aussi dans ma relation avec le monde. Éphésiens 6, ça parle dans Éphésiens 6, l'apôtre Paul va parler des relations de travail. Ça parle aux employeurs, aux employés, comment être un boss, un patron chrétien, comment avoir des bonnes relations avec mes employés, comment avoir une bonne relation avec mon employeur, mon témoignage au travail, comment être un bon employé, comment avoir une belle attitude. Tu veux avoir une bonne relation. Il y a des choses qui te dépassent, ça c'est évident, des choses compliquées, des situations parfois avec le syndicat et tout ça, tu te retrouves dans une situation, et c'est compliqué, mais à travers tout ça, que le Seigneur nous aide à rester quand même, avoir une belle attitude. Être un bon employé, être un employé honnête, sincère, un bon travaillant, avoir une belle attitude. Quel domaine ai-je besoin de grandir ici? Voilà les 4 domaines, et ces 4 domaines sont importants, et chacun de ces 4 sphères a besoin d'être sous le contrôle de Jésus-Christ. Juste à l'endos, vous allez voir un autre graphique, ça c'est la roue. Vous allez avoir 8 domaines, c'est présenté, c'est essentiellement la même chose dans le fond, mais c'est comme 8 domaines de votre vie, 8 domaines que vous avez ici, le fondement biblique, où j'en suis, dans mon fondement biblique, ma vie de prière, où est-ce que j'en suis. Est-ce que je développe cette habitude? Et des fois, on se relâche, mais on veut revenir, on veut s'encourager à revenir. Des fois, on peut passer quelques jours, peut-être même une semaine sans prier, mais tu veux revenir, tu veux t'encourager, OK, reviens, développe, redéveloppe cette vie de prière-là. C'est des habitudes, c'est des disciplines spirituelles. J'ai remarqué une chose l'autre jour, c'est que j'avais passé quelques semaines, j'avais arrêté de mon jogging, et j'ai réalisé que je commençais à être comme moins en forme. Vous savez, on n'est pas reconnu les pasteurs pour travailler très, très fort avec des marteaux. Puis on n'est pas très manuel dans le sens qu'on ne travaille pas. Notre journée, elle se passe, puis c'est comme tu parles. J'ai développé vraiment des gros muscles ici. Là. Je parle beaucoup, j'écoute, des bonnes oreilles, j'ai des grosses oreilles aussi. J'écoute beaucoup. Mais tu sais, j'ai pas les mains. Je salue certains gars qui sont en construction, tu as des mains épaisses et tout ça. Waouh, c'est mâle, là. C'est mâle, là, pas mal. Puis là, j'ai arrêté mon jogging. Fait que c'est important, encore plus important pour moi de faire du jogging parce que dans le fond, je suis devant un écran ou je suis devant une personne. T'sais. Fait que je fais pas grand-chose à part de la maison, ça, c'est sûr, c'est de temps en temps, faire des petites affaires. Là, et là, mon ami, j'ai commencé à être raqué. Il me semble que j'avais vieilli de 5 ans, 7 ans, je me levais, puis. Ça en est dur. Je disais, ça pas de bon sens, il faut que je recommence mon jogging. Puis là, j'ai recommencé le jogging. Puis, mon ami, tu étais essoufflé, tu veux mourir, tu as la langue à terre. Puis tout, tu faisais juste à peu près 2 minutes, je courais. Puis là, tu t'aperçois que ça part vite, hein? Ça part vite. Puis ça, je disais, il faut que je recommence. Puis ça, là, j'ai recommencé. Là, puis là, je descends les escaliers. Puis, là, je suis en forme. J'ai un peu plus en forme. Puis je sais que je vais être encore plus en forme dans 3 mois. Mais l'idée, c'est pas de dire, j'ai arrêté le jogging, j'en ferai plus jamais toute ma vie. Garde, je suis tombé, j'en ferai plus. Non, c'est comme la vie de prière, c'est la même chose, OK? T'as arrêté de prier. Ça fait quelque temps. Mais oui, c'est correct, mais recommence. Hein? Tu te relèves, tu recommences. On y va, on s'encourage mutuellement. Et c'est ça, c'est comme ça, la vie de prière. On développe, on recommence les disciplines spirituelles et l'étude biblique. Alors, quels sont tes objectifs? Quel cours vas-tu prendre cette année? Quel livre tu vas lire? On veut s'encourager comme ça pour favoriser la croissance spirituelle. Il y a des gens qui vont dire, « Ouais, mais moi, j'aime pas lire. » Moi, j'aimais pas lire avant de venir au Seigneur. « Ah, je détestais lire, ça n'avait pas de bon sens. » Puis, je suis venu au Seigneur, puis là, je commence à lire ma Bible et tout ça. Puis, je me suis aperçu que c'est un goût qui se développe. Et il y a tellement de bons écrivains aujourd'hui, puis je te le dis, puis tu n'as pas besoin de lire trois, quatre. Il y a une femme qui a passé à la télévision hier, elle dit, je lis 7 livres par semaine. Moi, ça ne m'inspire pas, là. Non, je dis, 7 livres, ça veut dire que je ne sais pas si elle est bien occupée à la maison. Mais je dis, vraiment que tu as des enfants, puis ça, là, je ne vois vraiment pas, là, tu sais. Tant mieux, elle fait de la lecture rapide, puis ça, j'imagine, c'est des romans, j'imagine, c'est correct, là, bon, c'est beau. Il y en a qui le font, j'en connais, c'est correct. Mais peut-être un chapitre par semaine. Tu sais, vas-y à ton niveau, correct. Puis aujourd'hui, il y a tellement de YouTube, puis des sermons. Il y en a plein maintenant sur YouTube, tu peux en avoir, puis tout ça. Il y a tellement de belles choses maintenant. Il y a des ressources comme on n'a jamais eu dans... Je te le dis, moi, quand je suis venu au Seigneur, là, il n'y avait pas grand-chose. Ça fait longtemps, ça fait quelques temps, là. Mais aujourd'hui, c'est incroyable ce qu'on a. Les ressources sont toutes là. Tu peux mettre tes écouteurs, puis tu fais ton jogging. Je fais mon jogging, puis je mets un sermon. Je cours. Avant, j'écoutais la musique. J'avais fait downloader ça, télécharger la musique. La musique exprès pour les joggers. Tu cours. Là, tu essaies de... Moi, j'ai pas de rythme, mais je suivais la machine à tourne, fait que j'y vais. Et, mais là, money, OK, ça fait une demi-heure. C'est comme petit temps. Okay. Tu sais, c'est comme, bon, franchement, j'ai commencé à écouter les sermons. Pourquoi pas? Fait que là, j'ai commencé à écouter les sermons. Puis là, je dis, hey, c'est une belle occasion. Fait que, hey, c'est super. Je veux dire, l'utile est agréable. Avec l'étude biblique, communauté, mon culte personnel, la mission. En d'autres mots, qu'est-ce que je fais? La mission, c'est au niveau de l'Église, mon implication, etc. La générosité, comment savoir avec mes offrandes? Est-ce que je suis régulier? Est-ce que je gère bien mes sous pour être capable de donner au Seigneur la priorité, tout ça, mon caractère, comment savoir? Alors, voilà comment on peut grandir. C'est des outils qu'on veut vous fournir, parce qu'on veut passer de l'enfance spirituelle à l'adolescence spirituelle et de l'adolescence spirituelle à l'adulte spirituel. Et comment rester motivé? Hein? Comment tu restes motivé? Comment tu vas faire du jogging, là, il y en a qui aiment ça au bout. Il y en a d'autres, là, c'est dur. Puis moi, il y a des fois, là, je dis, je perds ma motivation. Je me suis inscrit dans une revue, Running's World, les joggers, tout ça, des gars qui courent. Là, tu commences à lire, là, puis tu lis, là, puis tu regardes, un homme de 82 ans a fait de 42 kilomètres. Puis là, tu regardes, OK, ça se fait. Fait que là, tu es là, puis ça t'inspire, tu lis des histoires, puis ça t'inspire. Bien, c'est vrai, vous, comment? Comment on reste motivé? Pierre nous dit exactement ce qu'on a besoin pour rester motivé. Il va dire une petite phrase. C'est pas long. Et voici ce qu'il dit. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Tu vas avoir une bonne motivation pour grandir et céder le contrôle des quatre sphères de ta vie au Seigneur. Regarde comment Dieu est bon. Tu regardes l'Évangile. Parce que la bonté de Dieu, c'est sa grâce, c'est ce qu'il a fait à la croix, ce qu'il a accompli pour toi, sans que tu le mérites, sans qu'on le mérite. Il nous a acceptés. Ce n'est pas en faisant toutes ces choses-là, en cédant tout ça, qu'on va être accepté plus par le Seigneur. Non, non, non. Il nous a déjà acceptés quand on était pécheurs, puis bien loin de lui. On était même blasphémateurs. Puis il nous a déjà aimés là, au point d'envoyer son Fils à la croix pour prendre sur lui tous les péchés, notre condamnation. Il l'a pris sur lui. Alors, c'est cette bonté-là qui doit m'inspirer à grandir dans le Seigneur. Ce n'est pas la loi qui m'inspire. Ce n'est pas « tu devrais ». C'est la bonté de Dieu et sa grâce qui doit me remplir de motivation pour chercher à grandir dans le Seigneur. Amen. C'est de cette façon-là qu'on pourrait faire face aux difficultés de la vie, même quand ça va être tough, ça va être dur. Et c'était ça la thèse du livre de Pierre. C'est ça son thème, c'est le point central, le message de toute la lettre de Pierre. comment grandir, comment faire face aux difficultés de la vie, aux épreuves de la vie, de manière à grandir et à être plus fort et non à être amer et m'endurcir. Inspirons-nous par la bonté de Dieu. Amen. Prions. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta grande bonté, pour ta miséricorde et cette bonté-là, cet amour-là que tu as eu envers chacun d'entre nous. Nous voulons non seulement te dire merci, nous voulons te donner nos vies, notre cœur, tout entier. Nous voulons te céder notre argent, notre vie de famille. On veut tout te présenter ça sur un plateau, Seigneur, et te l'offrir. Aide-nous ensemble, mutuellement, à s'aider, à s'entraider. Nous voulons grandir parce que pour nous, tu as tout fait pour nous. Nous te devons tout, Seigneur. Tu as été tellement bon envers nous. Et c'est en comptant les bienfaits de Dieu que nous réalisons à quel point ils sont grands. Alors, Seigneur, donne-nous cette grâce. Aide-nous par ton Esprit Saint à grandir afin de devenir de plus en plus à l'image de Christ. Pour ta gloire. Amen.